France Inter. Julio Cortázar, l'écrivain argentin, s'installe en France au tout début des années 50, à Paris plus précisément, et il adore le jardin des plantes. Il écrit « Il fut une époque où je pensais beaucoup aux axolotls. J'allais les voir à l'aquarium du jardin des plantes et je passais des heures à les regarder, à observer leur immobilité, leurs mouvements obscurs. Maintenant, je suis un axolotl. » Nerina Apetian est arrivée d'Iran à l'âge de 10 ans. Elle a lu Cortázar, elle a aimé. Elle a emmené son fils au jardin des plantes, ils ont passé des heures à regarder des axolotls. Alors un jour, elle a écrit « Il faut également savoir que le monstre d'eau de l'aquarium du Jardin des Plantes a une capacité de régénérescence physique étonnante liée au fait qu'il reste, même adulte, à l'état larvaire. Il peut ainsi recréer ses organes endommagés, y compris son cerveau. Bref, il est d'une incroyable résilience. » Chez Cortázar, j'y ai toujours vu une représentation de l'immigré qui, sans s'en rendre compte souvent, devient autre dans son pays d'adoption de façon irréversible. Et même si celui qui est devenu un axolotl n'a jamais cessé d'être lui-même, il sait, comme le personnage de la nouvelle, qu'il n'y a pas de retour possible vers son état antérieur, à moins que justement le chemin du retour ne se trouve au jardin des plantes. Ouais, à moins que l'identité ne se trouve au fond, dans la mobilité.
France Inter. En marge.
برای توی کوچه رخ سیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی عصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره
L'histoire de cette chanson que vous entendez est folle, tout comme ce mouvement de fond en Iran est stupéfiant. Servin Hajipour est un jeune chanteur iranien. Au premier jour de la révolution, en septembre, il note tout ce qu'il entend dans la rue, ce qu'il lit sur les réseaux sociaux, et il écrit cette chanson, Baraye pour, en langue persane, pour danser dans la rue, pour ne plus avoir peur, pour nos mères, pour nos sœurs. Voilà ce qu'il chante du fond de sa chambre, et il se filme, et il poste, en quelques jours, plusieurs millions de vues sur Twitter, cette vidéo. Il est arrêté, libéré sous caution, à condition de se taire. Il ne chantera plus. La chanson, elle, va vivre sa vie sans lui, faisant le tour du monde. Aujourd'hui, elle est l'hymne de cette révolution. Bonsoir, bienvenue, Nerina Apetian.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous sentez en entendant ce balayer? Quelles pensées ou quelles images vous viennent?
Je suis très émue. Je revois toutes ces femmes qui ont enlevé leur voile pour le faire tournoyer autour de leur tête, pour danser dans la rue, pour brûler leur voile. J'ai été très très frappée, très très émue en voyant le apparaître le mouvement Femme Vie Liberté. Je me suis dit
il y a un peu plus de 6 mois maintenant, ouais.
Je me suis dit ça y est, c'est la révolution, le régime islamique va s'effondrer, je vais pouvoir rentrer en Iran.
Vous dites, je vais pouvoir rentrer
ouais. C'est ce que je me suis dit.
Vous êtes journaliste, romancière, votre genre de prédilection c'est le polar, mais tout à coup, il y a ce récit autobiographique, Quitter Téhéran. Pourquoi maintenant?
Alors, j'avais des fragments que j'avais écrits sur mon ordinateur, qui étaient dont je savais pas si ça allait donner un livre ou pas. Et puis j'ai eu l'idée d'organiser tout ça sous forme d'enquête, de raconter l'enquête que j'ai faite pour comprendre pourquoi mon père est resté coincé en Iran alors que moi et ma mère on a pu venir s'installer à Paris. Et
quand juste après l'instauration de la République islamique.
Tout à fait, en 1980. Et quand j'ai eu cette idée, quand j'ai trouvé ce fil rouge de l'enquête, je me suis dit, maintenant je peux écrire ce livre que je pensais écrire à un moment, mais je ne savais pas quand.
Axolotl, c'est vous, cette drôle de créature dotée du pouvoir de s'adapter, toujours de se régénérer sans fin, d'ici et d'ailleurs à la fois. Vous êtes aujourd'hui devant ce miroir. Nerina Apetian, que voyez-vous quand vous regardez? Qu'aimeriez-vous dire de vous à celles et ceux qui nous écoutent?
Alors, j'ai un grand nez.
Pas tant que ça.
Bon, c'est gentil, mais je suis assez contente de mon grand nez arménien, iranien, que j'ai pas fait opérer, contrairement à beaucoup d'iraniennes
qui
adorent la chirurgie esthétique. Est-ce que c'est parce que j'ai grandi en France et que je me suis sentie libérée par rapport à beaucoup de contraintes physiques qui pèsent sur les iraniennes, ou est-ce que c'est parce que j'aime bien mon nez, à mon avis. Même en Iran, j'aurais pas cédé à la mode de la chirurgie esthétique.
Quel rapport est-ce que vous avez avec votre féminité? Avec le fait d'être une femme?
Alors, je suis pas queer, mais j'ai quand même un rapport où j'ai eu toujours envie de rompre avec l'aliénation que vivent beaucoup de femmes orientales qui sont très obsédées par leur physique. C'était notamment le cas de ma mère. Ma mère est complètement obsédée par son physique, y compris aujourd'hui à 90 ans, qui vivent beaucoup à travers l'apparence. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était une façon pour les femmes d'être dominées, parce que les hommes, eux, ne sont pas du tout aussi obsédés par leur physique, ce qui leur permet de se réaliser souvent mieux que les femmes.
Quitter Téhéran, c'est votre histoire, histoire intime, histoire profondément politique aussi, où vous racontez l'exil et la révolte, le double héritage, et qu'est-ce qu'on fait de nos ruptures, de nos manques, de nos racines. Avec vous, tout commence dans une maternité de la capitale iranienne le 20 novembre 1970. La suite, vous allez nous la raconter.
Qui va la tristesse, vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse, vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Dégage de là. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Contrôle total des sentiments, la tristesse me déteste. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. À part mes pulsions, création, je contrôle tout le reste. Je contrôle tout le reste.
Il arrive des fois qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse.
Marionnette, on est... Oh,
de Sagazan sur France Inter avec ce titre Tristesse. Il n'y a pas de tristesse chez vous, Nerina Apetian. Je dirais plutôt une forme de mélancolie qui affleure parfois de Paris à Téhéran. Et ce, malgré Dallas et malgré Claude François.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
De l'entrée s'est arrêté sur midi, à ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti, j'ai cherché le repos, j'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, dans d'autres voix qui rassurent mes mots d'amour. Te prendras au jeu des passions conjugues, mais tu verras d'aventure le grand amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien.
Vous écoutiez vraiment Clo-Clo ?
Oui. J'étais toute petite, hein, ouais. J'avais un 45 tours que j'avais ramené de Paris, parce que même avant la Révolution, on avait beaucoup de liens avec la France, on venait régulièrement en France.
Comment ça se fait ?
Alors, ma mère avait fait un stage de microbiologie à l'Institut Pasteur. Ouais. Elle était restée assez longuement en France et elle s'était beaucoup attachée à la France. Je pense qu'elle a toujours rêvé de vivre en France.
Ouais.
Et que même sans la Révolution, serait venue, ouais, s'installer ici.
Qu'est-ce, oui, que ça représentait à ses yeux, la France ?
Beaucoup de liberté, je pense. Ouais. La modernité, la liberté. Et puis ces années de jeunesse aussi, je crois.
Et dans vos yeux de petite fille ?
C'était le pays de la mode, des Barbie, de Claude François. Et en fait, on est venu aussi. Elle a fait un nouveau stage de microbiologie quand j'avais 3 ans. Donc on est venu. On a passé 6 mois en France et j'ai été scolarisée en France et j'ai appris le français à ce moment-là. Et quand ensuite je suis rentrée en Iran avec mon disque de Claude François, tout le monde me disait ah, mais tu parles français. Et moi j'avais l'impression d'avoir complètement oublié le français, d'être un imposteur. Mais en fait, le français était là et j'ai pu le remobiliser quand on est revenu après la Révolution.
Vous grandissez à Vanak, quartier riche du nord de la ville. L'appartement est beau, les baies vitrées sont grandes. Au 12e étage, vous dominez le paysage. Dans les couloirs, vous entendez les pas feutrés d'Elsa, la femme de ménage philippine. Et de la rue montent à peine les appels des marchands ambulants. L'enfance a le goût de la vachac pâte de fruits séchés vendus sur les marchés. Et les codes d'une certaine élite, que diriez-vous du milieu social dans lequel vous avez grandi, de ces valeurs, de l'ambiance à la maison de...
C'était un milieu très bourgeois, on faisait partie de l'élite partisane du Shah, proche du Shah. Mon père, qui était le chef de la communauté arménienne en Iran, était régulièrement reçu à la cour. Et j'ai le souvenir que je raconte dans mon livre que moi j'avais un chauffeur personnel. Ah oui. Qui était marxiste, à cause de lui que j'ai arrêté de croire en Dieu, parce qu'un jour, comme tous les Iraniens, il était très éloquent, il a utilisé la poésie, je me souviens plus très bien de ce qu'il a dit, mais il a utilisé l'image d'une rose, il m'a raconté quelque chose qui a complètement détruit la foi en moi, et j'avais ce chauffeur marxiste alors que j'avais à peine 7 ans, et aujourd'hui ça me frappe, parce que, oui, je me dis, voilà, c'était un pays où les petites filles de 7 ans avaient des chauffeurs personnels.
Pouvaient avoir des chauffeurs personnels, ouais, quand elles appartenaient à cette élite que vous évoquiez. Votre père aussi est enseignant-chercheur en bactériologie. Chez vous, on est lettré, on n'est pas très croyant, tranquillement pratiquant, très ouvert sur l'Occident, totalement en phase avec le pouvoir du Shah. Mais la colère gronde à la fin des années 70 et le peuple va se soulever. Le régime finit par sombrer. Le 9 novembre, un certain Ayatollah Khamenei sur le tarmac est acclamé.
C'est tellement vite le jour de l'arrivée de l'Ayatollah que très peu d'Iraniens ont eu l'occasion de le voir. Le lendemain, dès le début de la matinée, des dizaines de milliers d'hommes attendent devant le portail de l'école où Khomeini a passé la nuit.
Vous vous souvenez de ce jour-là ? de ce son-là ou de ces images-là? Vous les avez encore en tête? Vous aviez 9 ans.
Je ne sais pas si c'est un vrai souvenir ou si c'est des
recréés par
des images que j'ai revues parce que c'est un jour très très important. Je me souviens de tous les débats qu'il y avait entre ma mère notamment, qui était très qui était une partisane farouche du chat.
Et puis elle avait les religieux chiites en horreur, hein.
Oui, qui avait le tout à fait les religieux chiites vraiment en horreur. Entre elle et mes cousins qui étaient marxistes et les marxistes ont soutenu Khomeini. Il était c'était un personnage effrayant qui a réussi à rallier tous les autres opposants au Shah, les marxistes, les nationalistes, qui se sont rangés derrière lui au début de la révolution avant qu'il décide de les réprimer dans le sang.
Alors très vite, les gardiens de la révolution vont faire appliquer un code moral et religieux à toutes et tous. Enfin, parfois avec votre mère, il galère un peu. Elle n'avait pas peur d'eux, votre mère?
Elle n'avait pas peur d'eux. J'ai un souvenir très très vif qu'un jour, on se promenait dans la rue après la Révolution. Elle avait une robe saharienne fendue. Et il y a un gardien de la Révolution qui l'a interpellée en lui disant que voilà, elle n'avait pas à avoir une robe fendue comme ça qui montrait ses jambes. Et elle l'a tout de suite interpellée en disant que cette histoire de voile, c'était vraiment n'importe quoi. Elle s'est engueulée avec lui, donc je pense qu'on a quand même bien fait de partir parce qu'elle était un peu en danger en Iran.
Ouais, elle était remontée comme un coucou, hein, votre mère. Ouais. Votre père, lui, il est proche des milieux nationalistes arméniens, autant dire une cible assez évidente, hein, pour les Mollahs. La République islamique est proclamée en février. 6 mois plus tard, votre mère et vous partez en France. Votre père, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là? Et qu'est-ce que vous savez aujourd'hui?
Alors c'est tout l'objet de l'enquête que j'ai menée dans ce livre. Je pense que ma mère avait quand même le projet d'immigrer. On s'est dit qu'on venait en vacances. Au départ, officiellement, on venait juste en vacances à Paris. C'était au mois d'août. Mais c'est des vacances qui ont quand même duré 43 ans. Donc,
de très, très grandes vacances, oui.
Voilà. Mon père lui a dit, au moment où on partait, je sais que vous ne reviendrez pas. Donc, elle avait le projet de partir, de quitter l'Iran. Cette histoire de république islamique lui était proprement insupportable. Et je pense que ce qui s'était dit, c'est que voilà, mon père pourrait venir nous rendre visite de temps en temps, mais ça rapidement, ça n'a pas été possible parce que on s'est rendu compte qu'il était sur une liste noire et qu'il était interdit de sortie, qu'il pouvait pas quitter le pays. Il était mamnol khorouj, comme on dit en persan, interdit de sortie.
En France, seul avec votre mère, le persan, votre langue devient un bruit de fond, littéralement. La radio toujours allumée vous donne en continu des nouvelles du pays.
درباره شما رادیو ایران اینترنشنال
یک دقیقه یک خبر
همه پرسی آزاد راه حل بحران ایران است.
Une fois en France, votre mère reste en permanence branchée sur ce qui se passe en Iran.
Elle avait quand même 49 ans quand on a immigré. Donc toute sa vie était en Iran. Donc c'était impossible pour elle de rentrer. Et en même temps, en France, elle était constamment connectée à l'Iran. Et encore aujourd'hui, elle continue à préparer des plats iraniens. Elle écoute la radio arménienne. Elle suit les nouvelles d'Iran. Donc elle a jamais vraiment fait le deuil de tout ce qu'elle a quitté, surtout que en Iran on avait un niveau de vie très confortable, alors qu'en France elle s'est retrouvée dans une certaine précarité. Moi je me suis tout de suite intégrée. Par contre, j'étais enfant, c'était facile pour moi. Je parlais français, je me suis fait des copines.
Elle vous en voulait de ça un peu parce que elle n'arrêtait pas de vous dire c'est pour toi que je suis venue. Quelque part, est-ce que vous sentiez de sa part une forme de ressentiment,
Je pense qu'elle se déculpabilisait en me disant ça. Elle se sentait coupable d'avoir laissé mon père en Iran. Pas seulement mon père, une grande partie de sa famille. Elle avait cette espèce de culpabilité qu'ont beaucoup d'immigrés. Donc elle se déculpabilisait en se disant que c'était pour sa fille. Alors qu'elle avait d'autres raisons que c'était...
Avec tout le poids que ça vous fait porter alors sur les épaules, hein, vous n'avez que 10 ans.
Je suis quelqu'un de très facile à culpabiliser. J'en ai gardé un sentiment de culpabilité assez fort contre lequel j'ai tenté de lutter en faisant une psychanalyse, mais je reste encore quelqu'un d'assez facile à culpabiliser.
Chez vous, ça n'est pas très grand, vous êtes loin toutes les deux des splendeurs que vous aviez connues, plus de chambres pour vous, vous vous serrez l'une contre l'autre dans le petit salon de votre appartement, installé sur le canapé avec votre mère juste à côté, vous faites votre devoir, appliqué, et il y a Dallas à la télé. Série culte des années 80, série monument. Qu'est-ce qu'elle raconte du monde à la petite fille que vous êtes à ce moment-là ?
Ça raconte surtout les États-Unis, mais c'est un soap, donc c'est du mélodrame, des histoires d'amour.
Mais donc, c'est à milieu de ce que vous vivez, c'est à milieu de ce que vivent ceux qui sont restés en Iran. Il y a comme un hiatus, non, entre ce que vous voyez à la télé et ce que...
Alors, il y a une fascination, je pense, pour les États-Unis. Mmh. Et ce qui est assez curieux, c'est que quand je suis retournée en Iran après 20-30 ans de révolution, j'ai vu que cette fascination pour les États-Unis, elle existait très fortement au sein de la jeunesse iranienne. Ouais. C'est la grande défaite de cette révolution. Et ma mère et moi, on était aussi assez fascinés par les États-Unis, tout à fait.
Pendant 6 ans, les échanges avec votre père sont limités à des coups de fil et à des lettres où tous les messages sont codés pour éviter la censure. Comment est-ce que vous vivez ce manque-là, cette absence-là de votre père?
C'était très difficile parce que je lui écrivais en arménien. Et j'avais un niveau en arménien qui était de plus en plus faible parce que ma langue c'était vraiment devenu le français. En même temps, comme mon père était très nationaliste, c'était pas imaginable que je lui écrive en français. D'ailleurs, il parlait pas français, mais j'aurais pu lui écrire en anglais. Il aurait compris l'anglais. Mais je lui écrivais en arménien. Ma mère me corrigeait, donc c'était aussi un peu une façon pour elle de contrôler ce que j'écrivais, donc j'avais pas de communication directe avec lui. Et puis en plus, un jour, les lettres se sont arrêtées. Parce que pour mon père, ça a été très douloureux de pas pouvoir venir nous voir, d'être coincé en Iran pendant toutes ces années. Il a réagi en faisant des AVC. En fait, c'était vraiment une forme de torture que lui imposait le régime, puisqu'il obtenait un visa pour venir en France, il obtenait une autorisation de sortie, il allait à l'aéroport. Et là, à l'aéroport, il retrouvait la liste noire sur laquelle il était et il le refoulait. Donc, sa santé s'est dégradée petit à petit. À un moment, il n'arrivait plus à m'écrire, donc j'envoyais des lettres sans réponse. Donc, il y avait un grand silence, mais il nous appelait. Pour moi, l'Iran, c'est beaucoup ce petit silence aussi caractéristique qu'on entendait quand on recevait un appel longue distance. Et là, il me disait « Noyui John » en arménien. Et je sentais toute l'affection qui me portait, malgré nos relations distendues.
Bon an, mal an, vous faites votre vie à Paris. George Orwell vous happe votre livre de chevet. C'est 1984, dans vos rêves les plus fous. Plus tard, vous êtes invité à Apostrophe pour parler de votre dernier roman. Et puis l'adolescence vous attrape et la fête vous rattrape. Vous sortez, vous dansez, vous rentrez à l'aube. En un mot, vous commencez à respirer. Cheveux crépés, noir corbeau, teint blafard, lèvres rouges foncées. Vous étiez gothique quand vous étiez ado, Nera?
J'étais gothique, absolument. Ça mettait ma mère en fureur.
C'est vrai.
Elle supportait pas que je me crêpe les cheveux. Je les teignais en noir. Je mettais des Doc Martens. En plus, à l'époque, les Doc Martens étaient moins répandus qu'aujourd'hui et j'avais des tout petits pieds. Donc, je mettais des semelles pour pouvoir les mettre quand même parce qu'il n'y avait pas ma taille.
Mais heureusement, Françoise était là. Qui était Françoise? Quel rôle est-ce qu'elle a joué auprès de vous à ce moment crucial de l'adolescence.
Françoise était là et toujours l'une des meilleures amies de ma mère, et elle venait nous voir quasiment toutes les semaines dans mon souvenir. Elle venait dîner chez nous, on discutait beaucoup de l'actualité, et elle jouait un rôle très important parce que elle brisait le tête-à-tête que j'avais avec ma mère qui était pesant. Parce qu'on formait une sorte de couple finalement avec ma mère, puisqu'on était toutes les deux, et elle brisait ce tête-à-tête, et puis elle représentait aussi un contre-modèle par rapport à la façon qu'avait ma mère de vivre sa féminité. Donc je vous ai dit qu'elle était très obsédée par son physique. Françoise l'était pas du tout, elle était toujours habillée en jean, et puis d'ailleurs elle occupait un peu une fonction masculine chez nous, parce que par exemple quand quelque chose tombait en panne, c'est elle qui venait et qui bricolait. Donc elle m'a aidée à construire ma féminité autrement que sur le modèle de ma mère.
Mais votre mère commence à lâcher un peu de lest. Elle est de moins en moins là le week-end. Elle part en Suisse. Mais pourquoi faire, dites donc.
elle avait, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est installé en France. Elle avait un amant. Donc c'est vrai qu'elle a, voilà, elle a trompé mon père, ce qui pour elle était aussi source de culpabilité, beaucoup. Après, je lui en veux pas. Elle avait le droit d'avoir une vie affective, de refaire sa vie.
C'est surtout que ça vous donne un peu d'air, vous. Tout à coup, d'avoir une mère qui est pas là, certains week-ends, qui est prise ailleurs, qui a la tête prise, le cœur pris.
C'est vrai.
Ça donne un peu d'air quand même à l'adolescence.
C'est vrai. On n'est plus un couple. Oui. En même temps, je pense qu'elle était quand même très attachée à mon père. Et c'est vrai que finalement, c'est aussi cette histoire d'amour que raconte mon livre. Parce que cet amant était pris de son côté. Il avait quelqu'un dans sa vie. Et elle ne s'est autorisée à être en couple avec quelqu'un qui est libre uniquement après la mort de mon père. Jusque-là, c'était pas possible pour elle.
8 ans après votre arrivée en France, votre père vous rejoint. Comment ça se passe pour vous trois à ce moment-là?
Alors, entre ma mère et mon père, c'est compliqué parce que ils sont plus en couple.
8 ans sans se voir, quand même.
8 ans sans se voir, c'est difficile. En plus, mon père était beaucoup plus âgé que ma mère, et quand il est arrivé en France, il n'était pas en très bonne santé. Il était assez diminué physiquement. Par contre, entre mon père et moi, ça se passe très bien. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de complicité, un peu contre ma mère. Il devait pas fumer à cause de sa santé, et puis moi je lui ai acheté des cigarettes en douce. On disait rien à ma mère, et moi j'aurais aimé qu'il reste avec nous à Paris, mais c'est pas ce qu'a voulu ma mère, et il est parti aux États-Unis chez mon frère, voilà, à Los Angeles, là où se trouve la majorité de ma famille.
Le fils aîné qu'il avait eu d'un précédent mariage. Donc, une fois votre père parti, vous vous retrouvez à nouveau en tête-à-tête avec votre mère. Alors, il vous faut de l'air, de l'air, de l'air. Vous faites des pieds et des mains pour pouvoir vivre seul. Votre mère accepte à l'arraché. Inscrite en fac d'histoire, vous cumulez des petits boulots pour pouvoir vous payer une chambre en colocation dans le 11e arrondissement. À 18 ans, vous obtenez la nationalité française et un passeport pour votre vie d'adulte enfin émancipé. À la technique, Ronan Mahé, à la réalisation, Laurent Polleret, Ophélie Vivier, chargée de programmation. Et ça, c'est Joy Division sur France Inter. Ce sont de belles années, vos années de fac, Nerina Apetian.
Ah, ce sont de très belles années. J'étais très heureuse de vivre seule. J'étais très heureuse de gagner un peu ma vie. L'autonomie qu'on avait à la fac me convenait tout à fait. Et je commençais à écrire.
Et est-ce qu'on peut ressentir une forme de culpabilité, là encore, quand on a 18-20 ans et qu'on se dit « Oh là là, je suis bien contente d'être en France, en fait, parce que je peux vivre ça ».
Pas là-dessus, non. Non. Là où j'ai pu ressentir de la culpabilité, c'est dans la perte de l'identité arménienne et dans la perte de mes langues maternelles, l'arménien et le persan.
À quoi aurait ressemblé votre vie amoureuse si vous étiez restée en Iran? Que vous aurait-on permis de vivre là-bas? Que devez-vous, au fond, à cet exil forcé qui fut le vôtre? Les réponses, vous les trouverez, Nerina Apetian, en partie, en Iran.
En marge. Sur France Inter.
ولي المتقين وناصر المستضعفين وهازم الجبارين سبحانه لا يهدي كيد الخائنين.
Ah oui. Et là, Nerina Apetian fait « Ah oui yeah. ». C'est la voix de qui ?
De Gougouche, qui était la grande chanteuse populaire en Iran pendant la période du Shah. Et elle a eu une histoire assez extraordinaire. En fait, comme elle venait d'un milieu très populaire, elle était orpheline. Elle a fait une chanson pour se féliciter de la venue au pouvoir de Khomeini.
Ah oui ?
Oui. Beaucoup de gens ont comme ça cru que Khomeini était un sauveur, une sorte
C'est-à-dire
de bandit.
C'est-à-dire que le chat était très impopulaire à la fin de son règne.
Le chat était très impopulaire à ce moment-là. Et Khomeini se faisait passer pour une sorte de Gandhi alors qu'il était sanguinaire. Et Gougouche a chanté une chanson pour de bienvenue, mais elle a dû le regretter amèrement puisque Khomeini a tout de suite interdit aux femmes de chanter en public. Donc je crois qu'elle s'est exilée après ça, mais qu'ensuite elle est revenue en Iran. Oui. Elle est revenue vivre en Iran.
Alors Gougouche, c'est l'Iran, puis l'Iran, c'est aussi ces embouteillages monstrueux, ces klaxons, ces serments, la télévision aussi. Ça, c'est le son de l'Iran. Quand vous y retournez avec votre mère en 94, vous reconnaissez 15 ans plus tard, le pays où vous êtes née.
J'ai un grand sentiment de familiarité. Ouais. Je suis très émue. J'ai l'impression de rentrer chez moi.
Ah oui.
Quand j'arrive à Téhéran au milieu des embouteillages et que je vois cette ville enserrée dans les montagnes, je suis très très émue. En même temps, je vois aussi que la ville s'est beaucoup modernisée. Il n'y a plus les vendeurs ambulants à Dodane, les voitures sont modernes, rutilantes, l'argent du pétrole coule à flot. Je vois aussi quelque chose qui m'étonne beaucoup, qui est la liberté que des Iraniens.
Oui, vous écrivez « Bienvenue en Iran, le pays des passe-droits et des magouilles avec la loi où une épée de Damoclès plane en permanence sur nos têtes puisque nous sommes tous en infraction constante. » Ça veut dire qu'on vit avec la peur et on fait comme on peut. C'est les deux à la fois. Il y a et la peur et la transgression.
Alors, la loi est absurde. La société est extrêmement moderne. Le niveau d'éducation est très élevé. Les Iraniens sont hyper connectés. Ils ont tous des téléphones portables aujourd'hui. Et en même temps, s'applique à eux la charia, une loi islamique archaïque qui n'a rien à voir avec le degré de modernité de la société. Donc, évidemment, les Iraniens qui sont pas idiots ne suivent pas la loi. Ils la transgressent constamment. Mais ils ne savent pas s'ils vont être punis ou pas.
Mais c'est quoi ? C'est de l'inconscience, c'est de la survie, c'est du courage ?
C'est du courage, ouais. C'est du courage, absolument. Et puis, il y a cette espèce d'arbitraire qui fait que, bon, comme tout le monde transgresse la loi, peu de gens, finalement, sont réprimés. Enfin, la répression est massive, évidemment, mais c'est pas tout le monde.
C'est pas systématique.
C'est pas systématique,
absolument. Et donc,
absolument.
Vous avez un oncle qui fabrique lui-même son vin vin dans sa baignoire, quoi.
Voilà, exactement, exactement. Et donc, le régime fait des exemples. Tout d'un coup, la répression s'abat, elle est sanglante, elle est féroce. Et ça, c'est censé faire peur aux Iraniens, c'est censé les terroriser pour qu'ils arrêtent de transgresser la loi, mais ils n'ont pas peur, ils continuent.
Dans Téhéran, vous guettez le silence des absents, je vous cite, hein, votre père n'est plus là, votre grand-mère, votre oncle non plus, vos proches, vos repères ont disparu. Comment vous regardent à rebours les autres, ceux que vous croisez à ce moment-là? Vous êtes qui pour eux?
Alors, dès que je prends un taxi, il suffit que j'ouvre la bouche, que je me mette à parler en persan pour qu'on me dise, mais vous appartenez à une minorité ou vous êtes une étrangère? Donc les gens reconnaissent tout de suite que je viens de l'étranger. Ils devinent que je suis arménienne à mon accent. En même temps, ils voient que je parle pas très bien le persan et puis je maîtrise pas non plus très bien les codes de politesse.
Mais ça fait quoi d'être une étrangère dans son propre pays?
Oui, c'est étrange parce que je me sens chez moi en même temps. Mais bon, dans la réalité, chez moi, c'est Paris. Hein.
Ce premier voyage ne sera pas le dernier. Vous y retournerez pendant un temps environ tous les deux ans pour observer ces paradoxes de la société iranienne, pour la raconter dans toute sa complexité. Vous êtes devenu journaliste, vous travaillez à Alter Echo et Iggy Pop est un pilier. The Passenger, parce que vous êtes vous-même une passagère éternellement en transit.
À l'époque, peut-être. Ouais. J'ai mis du temps à me stabiliser. J'ai mis du temps à accepter que voilà que je vivais en France. J'étais intégrée. J'ai mis du temps à me stabiliser professionnellement et amoureusement. Et je pense qu'il y avait toujours un peu ce sentiment de culpabilité d'avoir quelque part trahi mon père, qui, malgré tout, malgré ce qu'il nous a dit, parce qu'il nous a dit vous devez quitter l'Iran, malgré ça, aurait bien aimé qu'on reste en Iran et qu'on avec lui et que on garde plus farouchement l'identité arménienne.
C'est cette culpabilité-là qui fait que vers la trentaine, vous poussez la porte du cabinet d'un psy ou d'une psy.
Bah, je voyais bien que j'arrivais pas à me stabiliser, donc je voyais bien que j'étais dans la spirale de la névrose. Donc, je me suis dit qu'il fallait briser ça. En même temps, j'ai toujours eu une fascination pour le voyage intérieur que pouvait représenter la psychanalyse. J'ai toujours voulu devenir écrivain et je me disais que ça pouvait aussi alimenter mon écriture.
De vos voyages à vos séances, un fil que vous continuez de dérouler. Pourquoi votre père est-il resté en Iran? Pourquoi n'est-il pas venu vivre auprès de sa femme et surtout de sa fille? Un jour, la clé de l'énigme, vous l'aurez, mais pas tout de suite. Non, là, en 2008, vous êtes enceinte et vous avez d'autres choses à penser. Qu'est-ce qu'on entend là?
Mohsen Nanjou.
C'est une chanson que vous écoutiez quand vous étiez enceinte, c'est ça?
Oui, tout à fait. J'avais peut-être déjà dans l'idée de commencer à écrire sur l'Iran. En fait, je me suis stabilisée professionnellement et amoureusement. J'ai trouvé ce travail à alternative économique et du coup, j'ai arrêté de faire des reportages en Iran. Et là, le désir est né chez moi de faire des reportages un peu dans mon imaginaire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des polars qui se passaient en Iran.
Et vous dites que c'est le polar qui a à nouveau coupé vos liens avec l'Iran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Ah oui, bien sûr, parce que mon premier roman s'appelle « Qui a tué l'Ayatollah Khanouni ?»
Ah oui, non, c'est pas une très bonne idée. Oui.
Voilà, c'est pas une très bonne idée de retourner en Iran après ça.
C'est alors de loin. Vous observez votre pays à nouveau se soulever, les femmes dévoilées, crier dans les rues « Femmes, vie, liberté », bientôt rejointes par des hommes, dans les cortèges, à l'université, partout. Elles disent « Mort au dictateur » et le monde entier, on est depuis septembre bouche bée. À voir ces images à la télévision, à entendre ces slogans à la radio, depuis 6 mois, est-ce que votre impression première a bougé? Ou est-ce que vous continuez de penser que là, ce qui se joue en Iran est définitif en fait?
Alors, mon impression première a été de penser que c'était la fin de la République islamique.
Ouais.
Je me suis aussitôt dit que ce que j'attendais depuis des années était arrivé. Mais malheureusement, ce que je vois aujourd'hui, c'est une répression féroce et sanglante.
Et en même temps, elles tiennent bon.
Tout à fait. Et les femmes aujourd'hui sortent à Téhéran sans le voile.
Elles lâchent rien, quoi. Elles sont d'un courage inouï.
Elles sont d'un courage inouï. Et l'écart que je vous décrivais tout à l'heure entre la modernité de la société et l'absurdité de la loi me fait penser que la République islamique ne peut pas durer éternellement. J'ai longtemps cru que cette République islamique allait se réformer de l'intérieur avec un Gorbatchev iranien. Mmh. J'ai beaucoup cru, et notamment parce que j'en ai rencontré, que les réformateurs, donc on dit souvent que le régime se divise entre conservateurs et réformateurs, et j'ai longtemps cru que les réformateurs allaient changer le régime de l'intérieur. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, dans les manifestations, on entend abat le dictateur et on entend aussi réformateurs-conservateurs, même combat. Donc les gens sont déçus, ils en sont revenus, et la seule issue qui reste est révolutionnaire.
Depuis septembre 2022, écrivez-vous, il n'est plus possible de dédiaboliser ce régime et de négocier avec lui, tant il révèle, avec la répression en cours, son caractère meurtrier. Je crois toujours que le changement est inévitable en Iran. Je pense qu'il adviendra par une révolution et l'effondrement de la République islamique.
We'll be right back.
Docteur Be On Your Way, traduction libre, Trace ta route, ma fille. Comme tous les samedis, Djoubaka est au platine, en marge. Vous retrouverez tous les morceaux que vous avez entendus ce soir à la page de l'émission sur radiofrance.com. Profitez-en pour nous podcaster.
France Inter, en marge.
Nérina Apétian, dans votre livre « Quitter Téhéran », vous nous parlez de ce médecin guérisseur qui un jour vous conseille, pour retrouver le sommeil, de convoquer des souvenirs. C'était d'abord les images de votre père qui vous venaient. Aujourd'hui, c'est votre compagnon et votre fils qui vous viennent en tête. C'est la preuve que vous avez quitté Téhéran ?
J'ai jamais vraiment quitté Téhéran. Et d'ailleurs, quand dans la scène du jardin des plantes que vous décrivez, avec mon fils, on est tombé sur une créature magnifique qui s'appelle le Malhor. C'est une espèce de chèvre avec des cornes vrillées qui vrillent vers le ciel et qui nous a fascinés longtemps. Et ensuite, en faisant des recherches sur lui, on a découvert qu'il vivait à la frontière de l'Afghanistan. Donc finalement, le jardin des plantes aussi me permet de rentrer en Iran.
Un jour peut-être, Anna Pétion, vous quitterez ce monde-ci. Mais vous ne le ferez pas n'importe comment, non. Avec Schumann, d'abord, le concerto en mineur, et Clara Askill au piano. Elle vous emmène où, ces notes-là ?
Elle me rappelle la naissance de mon fils.
Ouais.
Et l'écriture de mon premier roman, les deux ont coïncidé. C'est peu après la naissance de mon fils que j'ai publié « Qui a tué l'ayatollah Khanouni ?» en croyant à l'époque, parce que les réformateurs avaient encore un certain poids en Iran, en croyant encore à l'époque que malgré la publication de ce livre, je pourrais continuer à aller en Iran, je pourrais rentrer là-bas.
Et c'est fou parce qu'à la fois, ça veut dire que la naissance de votre fils à la fois vous a autorisé toutes les audaces et d'écrire. Et puis d'écrire un polar. Et puis d'écrire un polar où on tue des ayatollahs. Et en même temps.
Qui m'a bien vengée.
Et en même temps, c'est ce qui vous coupe de l'Iran. Mais est-ce que c'est aussi ce qui vous permet d'y renoncer, en fait, de dire ben voilà, ma vie, elle est ici ?
Depuis que j'ai un enfant en France, je sais que je ne prendrai pas le risque de retourner en Iran et de rester coincée là-bas, prise en otage par le régime, comme ils le font souvent avec les binationaux, journalistes, écrivains. Je prendrai pas ce risque d'être séparée de mon fils comme moi-même j'ai été séparée de mon père.
Vous lui transmettez quoi de votre histoire ou de sa culture d'origine ? Votre fils.
Alors, j'ai pas réussi à lui transmettre la langue arménienne. Beaucoup de gens m'ont dit si tu lui parles en arménien, voilà, ça va venir, ça va devenir un automatisme. Tu ne lui parleras qu'en arménien à ce moment-là. Mais c'est jamais devenu un automatisme. Le français est vraiment devenu ma langue. C'est la langue dans laquelle je rêve, j'écris, je pense. Donc, c'est vraiment devenu un automatisme. Mais il a suffi d'une histoire juive qu'on m'a racontée un jour pour que, malgré la complexité de toute mon histoire, je me sente plus sereine par rapport à la question de la transmission.
Racontez-la.
Je vais vous la raconter.
Bien sûr.
Mon arrière-grand-père récitait une prière en yiddish chaque soir près d'un arbre à côté du shtetl. Mon grand-père a dû partir, mais il trouvait toujours un arbre auprès duquel il récitait cette même prière. Mon père habitait en ville, il ne parlait pas le yiddish, mais récitait la prière chez lui. J'ai de mon côté oublié les paroles de la prière, mais je vous raconte cette histoire. Donc, quand on m'a raconté cette histoire juive, j'ai trouvé une sérénité que des années de psychanalyse ne m'avaient pas donnée.
S'il y avait un objet que vous pourriez transmettre à votre fils et qui vous raconte, ce serait quoi ? Je crois qu'on l'a entendu là.
Oui, c'est mes clés. Alors, il y a tout. Il y a les clés d'Alter Echo de mon journal, il y a les clés de chez moi, il y a les clés de chez ma mère à qui je rends souvent visite. et dont je m'occupe quand même pas mal.
On ne défait pas le duo comme ça, quoi.
Voilà, tout à fait.
Merci Nerina Apetian, Quitter Téhéran, votre récit est édité chez Bayard. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment avec le même plaisir, mais très exceptionnellement. Ce soir, on se quitte sur un dernier souffle de liberté. Bella Ciao, le chant des partisans en persan.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi parim as kho, ye shab mahto, yeki mige ay adam ha, ya hame ba ham, ya hame tanha, ma ke bidarim ta farda, khake in gandam, tu khiyabune, خوشه خشم من و تو تشنه بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.